les podcasts de Radio Vatican.
Il y a 100 ans, la révolution bolchévique et l'instauration du communisme d'État qui s'ensuivit changeaient le visage de la Russie, tout en amorçant un bouleversement majeur des équilibres européens et mondiaux. En cette année de centenaire, nous revenons sur le coup d'État d'octobre 1917, orchestré et mené par le parti bolchévique et son emblématique leader, l'implacable Vladimir Ilitch Ulianov, dit Lénine, farouchement déterminé à faire triompher l'idéal socialiste, et cela par tous les moyens. Le 7 novembre, dans un climat général d'agitation sociale, les bolcheviks s'emparent donc du Palais d'Hiver, le siège du gouvernement provisoire mis en place après l'abdication de Nicolas II et la chute du régime tsariste en février de la même année. Un nouveau pouvoir se lève en Russie, le régime soviétique qui se met alors en place et se perpétuera jusqu'en 1991, sera l'une des dictatures les plus répressives et meurtrières du XXe siècle. Retour sur les événements d'octobre 1917 avec Alexandre Sumpf, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Strasbourg, auteur de 1917, La Russie et les Russes en révolution aux éditions Perrin. Il est également l'un des conseiller scientifique de l'exposition organisée par la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, et 1917 devient révolution.
La première singularité des bolcheviks, c'est qu'il y a un leader reconnu et qui exerce son pouvoir sur ce parti qu'il a créé de ses propres mains et qui est Vladimir Ilitch Ulianov, dit Lénine. Que ce leader vit en exil depuis le début du siècle, donc il est détaché de la Russie, et que pour autant, il a une théorie de la révolution russe qui diffère de celle des autres partis. Pour lui, il faut absolument transformer la guerre impérialiste, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale, en une guerre civile révolutionnaire. Et donc pour ceci, il faut faire la paix avec les ennemis de la Russie, notamment l'Allemagne, afin de retourner les armes vers l'intérieur pour lutter contre tout ce qui est, à ses yeux, contre-révolutionnaire. Et donc, cette singularité aussi du parti, c'est que le parti est unifié derrière une idéologie bien concrète, derrière un leader incontesté, et que c'est un parti très organisé, dont l'un des modes d'organisation et d'action est la propagande. Et c'est tout ceci que ne possède pas ou que ne pratique pas au même degré les autres partis, et qui va faire aussi le succès des bolcheviks en 1917 et créer les conditions du coup d'État d'octobre.
Alors, nous sommes en septembre 1917. Les bolcheviks sont majoritaires au sein des soviets. Le pouvoir a été acquis d'une certaine manière par des élections. Alors, pourquoi ce coup d'État ? Pourquoi les choses se sont-elles précipitées au point d'en arriver à la prise du Palais d'Hiver ?
La question de l'insurrection est une question qui ne va pas de soi et qui suscite de grandes résistances au sein du parti, notamment de la part des modérés que sont Kamenev et Zinoviev. Le point de vue de Lénine sur l'insurrection, c'est la possibilité, d'une part, de prendre le pouvoir par les armes, par une action spectaculaire qui n'est pas une voie légale et qui est une voie révolutionnaire. Donc il rejette un des grands mouvements de fond de 1917, qui est la partie de démocratisation, pour renouer avec l'esprit du début de l'année, qui est un esprit révolutionnaire. Et puis d'autre part, faire cette sorte de coup d'État, ça rompt l'unanimisme qui pouvait présider entre les différents partis socialistes et différents révolutionnaires. Et ça crée une sorte de provocation, de casus belli. Et ça force les socialistes à prendre parti pour ou contre le pouvoir bolchevique. Et ça crée donc les conditions de la guerre civile que Lénine appelait de ses voeux dès novembre 1914.
Il y a donc le coup d'État d'octobre et derrière la révolution bolchevique. Alors, sur quoi s'appuie-t-elle cette révolution et quelles sont ses aspirations ?
Le coup d'État correspond à des aspirations profondes et à d'autres révolutions que la révolution politique, à savoir la révolution des paysans, qui s'empare des terres et les distribue de manière égalitaire, la révolution des ouvriers qui, petit à petit, s'ingénie dans les usines à participer, voire à prendre en main totalement la gestion de la production, et puis la révolution des soldats, ce qu'on a appelé le bolchevisme des tranchées, c'est-à-dire ceux qui, au front, dans les garnisons aussi de l'arrière, militent pour l'arrêt total des combats et une paix immédiate, sans annexion et sans contribution. Et de ce point de vue-là, les trois décrets de Lénine du 26 octobre, à savoir le décret sur la paix, le décret sur la terre et aussi le décret sur la nationalité qui ouvre la voie à l'indépendance à un certain nombre de nations constitutives de l'Empire, eh bien, est un point de convergence entre le programme bolchevique historique et les circonstances de 1917 que Lénine a lucidement pris en compte pour permettre à son régime de s'installer et de durer.
Alors revenons au coup d'État d'octobre. A-t-il été planifié ou, comme certains l'affirment, a-t-il été un peu bâclé et a profité d'une certaine manière des circonstances ?
Le coup d'État a été très soigneusement planifié parce que si Lénine veut renouer avec l'esprit insurrectionnel de février, il ne veut absolument pas revivre, que la Russie revive les journées de chaos révolutionnaire du début du mois de mars. Et donc, c'est une insurrection qui, en fait, est un coup d'État avec trois types d'hommes armés distincts. D'une part, les marins de la Baltique qui sont très fortement bolchevisés de manière précoce, et en particulier les marins de la garnison de Kronstadt. Ensuite, les tirailleurs lettons, un régiment lui aussi bolcheviser de manière précoce et qui sont un peu le régiment de choc des bolcheviques, et un peu leur cosaque. Et puis, les gardes rouges, qui sont ces milices ouvrières armées qui font régner l'ordre dans les faubourgs ouvriers de la capitale, mais qui, eux, ne participent pas vraiment à l'assaut du palais d'hiver et servent surtout à monter la garde dans les gares, le télégraphe, etc. La planification, elle a été ouverte puisque dès le 29 septembre, dans la Pravda, Lénine a annoncé le déroulement de l'insurrection, et si vous lisez cet article publié en première page, eh bien vous avez exactement ce qui s'est passé le 25 octobre. Ce qui a été discuté lors de la réunion secrète du 10 octobre, réunion donc du comité central, c'était d'abord l'opportunité de provoquer une insurrection alors que, je l'ai dit, les bolcheviques étaient en passe de remporter la majorité dans les urnes, et puis deuxièmement, c'était donc une opposition de la part de, notamment de Karenev, et puis autre opposition, celle de Trotsky, qui s'opposait sur le timing et qui voulait attendre l'ouverture du second congrès des soviets et ensuite faire le coup d'État, alors que Lénine voulait à tout prix provoquer une rupture dès le début de ce congrès et donc lancer le coup d'État avant. Et c'est d'ailleurs cette option qui a été finalement choisie, toujours parce que Lénine ne voulait pas obtenir un pouvoir, on va dire, légal, légitimé par les urnes, mais ne voulait surtout pas le partager avec non seulement ses alliés socialistes révolutionnaires de gauche, mais aussi avec les autres partis socialistes qui n'allaient pas manquer, en s'appuyant sur les modérés du parti bolchevique, ce que n'était pas Lénine, qui n'allaient pas donc manquer de proposer un grand gouvernement socialiste d'union nationale en lieu et place du gouvernement provisoire qui était une alliance entre les libéraux et les socialistes les plus modérés.
Aujourd'hui, le gouvernement de Moscou aborde les commémorations avec une certaine frilosité. La révolution bolchevique, ça reste quand même un événement important, majeur de l'histoire de la Russie. Quelle place cette révolution, cet événement tient-il dans l'imaginaire collectif en Russie aujourd'hui ?
Alors cet imaginaire collectif, il est bien entendu codifié en fonction de l'appartenance politique. Vous avez encore aujourd'hui un parti communiste assez fort en Russie qui surfe sur la nostalgie de l'époque soviétique, mais qui, depuis le début des années 90, a renoncé à tout idéal révolutionnaire. Son leader, Zhuganov, a dit que la Russie avait eu son content de révolution, et donc qui se contente de cultiver, de commémorer, pour eux, octobre, la fête du 7 novembre qui n'est plus un jour férié en Russie. C'est un moment pendant l'année où on se retrouve entre soi, où on défile à nouveau, comme par le passé, avec les drapeaux rouges, et où on se compte. Bien. Et puis il y a toute le reste de la Russie, une très grande majorité de personnes qui ne sont pas ces nostalgiques et qui ne sont pas des communistes. Et ceux-là sont sensibles de manière assez importante au discours officiel qui fait de la révolution, et en particulier de la révolution d'octobre, un des moments les plus noirs de l'histoire de la Russie, un moment qui a conduit le pays à sa ruine, qui l'a empêché de devenir la grande puissance que la Russie n'aurait pas manqué d'être s'il n'y avait pas eu la guerre et s'il n'y avait pas eu la révolution, ce qui fait beaucoup de si, et surtout diffuse l'idée que Lénine était un agent de l'Allemagne, un agent du marxisme, Marx était allemand et juif, et un agent payé par Guillaume II et l'état-major allemand pour faire perdre à la Russie la guerre. Donc l'idée que la révolution a fait déchoir la Russie et que seul, et là c'est un peu paradoxal, seul Staline a réussi à redresser la barre, notamment en réinstaurant un État fort, un État violent comme la Russie en connaît, et que le peuple est censé apprécier. Et puis, en 20 ans, lors de la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique, comme ils le disent, l'ennemi nazi, l'ennemi fasciste, et donc en prouvant la supériorité de la nation russe sur les autres nations européennes. Et de ce point de vue-là, dès 1945, la fête du 9 mai est plus importante dans les célébrations que la fête du 7 novembre. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on voit. Le 9 mai est le jour capital pour réaffirmer la puissance de la Russie sur la scène internationale, alors que le 7 novembre n'existe plus.
Des propos recueillis par Manuela Affigy.